Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cet instant que tu nous donnes, afin, Seigneur, de plonger nos regards dans ta parole. Nous savons, Seigneur, que celle-ci est une source de vie, d'instruction, et le plan à travers lequel, Seigneur, tu veux nous voir exister et évoluer. Alors nous prions, Seigneur, que notre entendement soit ouvert, que ta pensée nous soit révélée, et que cette révélation, Seigneur, trouve en nous une terre qui est propice afin qu'elle puisse s'y implanter, y croître et y porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Je bénis ma sœur et je bénis mon frère ce matin qui font l'effort d'être avec nous en dépit des horaires, des tâches, des occupations respectives. Et je bénis aussi, Seigneur, tous ceux qui écouteront ce message après coup. Que la même onction que tu déverses sur nous soit déversée sur chacun d'entre eux, et qu'en toute chose que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Non seulement aujourd'hui, non seulement dans ce temps présent, mais jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, on vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Timothée, au chapitre 4, le verset 6 et 7, qui sont les versets clés pour cette semaine, et puis par la suite je relirai la phrase que nous étudions aujourd'hui. Alors 2 Timothée 4, le verset 6 nous dit: car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je répète: car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et la section de texte que nous étudions aujourd'hui, c'est dans le verset 6, la deuxième partie, qui nous dit: et le moment de mon départ approche. Et le moment de mon départ approche. Simplement pour faire un court résumé de ce que nous avons vu hier lorsque Paul parlait qu'il servait déjà de libation, on a vu que le terme libation faisait un rappel à une pratique qu'on avait dans l'Ancien Testament, qu'on voit au moins à deux reprises dans l'Ancien Testament, qui est de déverser sur le sacrifice qu'on offrait à Dieu aussi une portion de vin, donc de vider une cruche sur un sacrifice qu'on offrait à Dieu. Et on voyait ainsi, lorsque Paul va dire qu'il sert de libation, que sa vie à lui était aussi déversée sur l'autel de Christ, donc qui s'associait au sacrifice de Jésus. Donc, en se faisant qu'il était participant ou partie prenante des souffrances de Christ, qu'il déversait toute sa vie et qu'il consacrait toute sa vie à l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, il continue en disant: et le moment de mon départ approche. Alors, soyons très très clairs. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui habituellement n'est pas réjouissant pour la majeure partie d'entre nous. Lorsqu'il parle comme quoi son départ approche, il parle effectivement de sa mort. Que ce soit dans le livre de Timothée, dans la deuxième épître de Timothée, ou que ce soit dans l'épître aux Philippiens, dans les deux cas, il est en train d'annoncer à Timothée, d'une part, son fils spirituel, sa fin imminente, et dans le livre des Philippiens, il est en train d'annoncer qu'effectivement il se dessine ou il avance jour après jour vers une mort certaine. Et on ne parle pas ici d'une mort dans son cas qui va être tout simplement de la vieillesse, la maladie ou autre, mais on parle vraiment d'une mort, une mise à mort, une condamnation à mort qu'il va subir. Il y a des gens qui ne veulent pas parler de la mort, parce qu'ils ont l'impression que s'ils parlent de certains sujets, ben ces sujets-là vont leur tomber sur la tête. Du type, si je parle de la mort, ben là, la mort va venir frapper soit dans ma propre vie ou frapper autour de moi. Si je parle de la maladie, ben à ce moment-là, je vais tomber malade ou des gens autour de moi vont tomber malades. Si je parle de chômage, ben j'appelle le chômage sur moi ou j'appelle le chômage sur ceux qui me sont proches. Soyons très, 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 très clairs là-dessus. Ça, on appelle ça de la superstition. Et en tant que chrétien, nous ne sommes pas superstitieux. Je peux parler de la mort parce que ma vie, dans son entièreté, est entre les mains de Dieu. Je ne peux pas précéder ma mort à part si je décidais, et c'est un péché, à part si je décidais de m'enlever ma propre vie, je ne peux pas précéder ma mort. Ma vie appartient à Christ et ce n'est pas parce que je parlerai de la mort que la mort va venir plus vite. Mon temps est calculé par Dieu, mon temps est décidé par Dieu. Et à chaque jour, ben, il y a une journée de moins dans le décompte qui m'est attribuée. Et ce décompte-là est attribué de façon tout à fait précise pour chacun d'entre nous. La Bible dit, et c'est le psalmiste qui va le dire, que Dieu connaît le compte des jours qui nous sont octroyés. Donc, c'est pas parce que je parlerai de la mort que j'arriverai plus vite à la mort. Et c'est pas parce que je parlerai de la maladie que je tomberai nécessairement malade. Ou c'est pas parce que je parlerai d'un accident d'auto que nécessairement tout à l'heure je prends la voiture et je me paie un accident d'auto. Nous ne sommes pas superstitieux, parce que superstitieux voudrait dire que nos vies sont sous l'influence d'un peu n'importe quoi. Nos vies sont sous le contrôle seul et unique de Dieu. J'ai donné ma vie à Christ, je lui ai remis mon existence. Et cette existence appartient à Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui, malgré leur foi, malgré leur chrétienté, tombent dans ce piège de la superstition. Alors qu'on en soit très très clair, Paul n'avait pas peur de la mort parce que sa vie appartenait à Christ. Paul n'avait pas peur d'avancer vers la mort, d'avancer vers son échéance finale, parce qu'il savait que sa vie appartenait à Christ. Alors il va dire, en toute connaissance de cause, tant à Timothée qu'à l'église de Philippe. On pourrait ouvrir déjà dans Philippiens au chapitre 1, Philippiens chapitre 1, et on va le lire du verset 20 au verset 26. Vous allez voir que Paul parle concrètement de sa vie et Paul parle concrètement de sa mort. Il va dire au verset 20, « Selon ma ferme attente, et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile que pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Alors, Paul parle très clairement de sa vie et très clairement de sa mort. Il va même dire, regardez, moi, la mort m'est un gain. Parce que si je meurs, je m'en vais près de Christ et je sais que c'est meilleur. Mais à cause de vous, à cause de mon ministère, à cause de l'œuvre, il est préférable que je reste parmi vous. Et je sais que je vais rester parmi vous. Donc, Paul n'a pas peur de parler de la mort en disant, ben, si je parle, ben, là, ça va me fracasser le crâne et puis, je vais finir rapidement le cours de ma route. Il sait que sa vie est entre les mains de Dieu et qu'il ne partira que lorsque Dieu en aura choisi ainsi. Alors, n'ayons pas peur d'aborder la question de la mort, ça fait partie de la vie. Qui dit qu'il est vivant dit aussi qu'éventuellement, à moins que Christ ne revienne d'ici là, nous connaîtrons tous aussi la mort. Encore faut-il s'y préparer. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit lorsqu'il dit que le moment de son départ approche? Ben, Paul est en train de dire, ben, le temps, ça me nuise. Paul sait reconnaître que le temps, ça me nuise. Il y a des gens qui vivent comme si, ils étaient déjà éternels de ce côté-ci de l'éternité. À moins, comme je le disais tout à l'heure, que Christ ne vienne chercher son Église dans notre génération et de notre vivant, chacun d'entre nous, la clepsydre, le sablier s'égrène petit à petit, et notre vie est en train de diminuer. Alors Paul était de ceux qui savaient reconnaître le temps, savaient reconnaître que le temps ça me nuisait, qu'il en restait de moins en moins, et Paul voulait s'assurer que ce soit à Philippe, que ce soit à Colosse, que ce soit à Éphèse, que ce soit avec l'église de Corinthe, avec l'église de Thessalonique ou d'autres églises, Paul voulait s'assurer de bien faire son ministère et de bien le remplir. Dans le chapitre 4 de Timothée, hier on le voyait dans le verset 5, il va dire à Timothée, « Remplis bien ton ministère, parce que moi je sers déjà de libation. Remplis, accomplis pleinement ton ministère, parce que le mien achève, le mien arrive à terme. » Donc Paul sait reconnaître le terme, les termes qui lui sont impartis. Paul sait reconnaître que le temps est en train de diminuer et il va tout faire pour que chaque journée compte. Je vous dirais que lorsque la maladie vient frapper nos vies, et là je ne parle pas d'une grippe, mais je parle d'une maladie qui menace la vie, lorsque ça vient frapper nos vies, on dirait qu'on réalise un peu plus combien cette vie peut s'achever rapidement ou subitement. Et chaque journée devient importante. Suite à la maladie, ma politique maintenant ou ma façon de vivre maintenant, c'est vraiment au jour le jour et je m'assure de vivre chaque journée comme si c'était la dernière et de faire tout ce que je peux dans cette journée pour accomplir le plein et parfait plan de Dieu pour moi aujourd'hui. Alors, cette maladie qui m'a frappé il y a déjà bientôt 5 ans, ben, cette maladie me permet aujourd'hui d'être dans cette position de Paul où il sait reconnaître que le temps s'amenuise, que le temps raccourcit et qu'il doit racheter le temps tel que les Écritures nous le disent. Alors profitez de chaque occasion, favorable ou non, pour faire l'œuvre de Dieu. Donc Paul sait reconnaître le temps qui s'amenuise. Deuxièmement, Paul sait accepter le temps et non pas le subir. Il y a des gens qui vivent en disant « Ah, ben il me reste plus que tant de temps à vivre. Oh, il me reste très peu de journées à vivre. Ou il me reste tellement peu de choses que je vais pouvoir faire. » Et ils regrettent le peu de temps qui leur reste. Paul n'est pas dans ce genre-là. Paul, lui, ce qui lui importe, ce qu'il veut s'assurer ou ce de quoi il veut s'assurer, c'est qu'il a pleinement bien gérer son temps. Donc, il accepte que le temps est en train de s'amoindrir. Il n'est pas victime du temps. Il n'est pas victime du temps qui lui reste. Il n'est pas victime non plus du temps qui est déjà parti. Il vit pleinement chaque journée. Donc, il embrasse le temps et non pas subir le temps. Troisième point, il sait que le temps de Dieu est parfait. Quand on parle du terme « moment » qui est utilisé dans 2 Timothée 4 et le verset 6, le terme « moment » en grec, c'est le terme « kairos », qui veut dire non seulement une question de temps, une question de durée, mais qu'il parle aussi de la bonne mesure, du moment opportun. Donc, il sait que ce temps qu'il a devant lui est bien géré par Dieu. Et ça, c'est une notion importante, savoir que le temps de Dieu est parfait. Je ne vais pas mourir trop tôt. Je ne vais pas vivre trop longtemps. Si ma vie, effectivement, est entre les mains de Christ et que je lui laisse mon existence jusqu'à la dernière seconde, je vais partir exactement au bon moment. Malheureusement, certains d'entre nous, surtout lorsqu'on passe par un temps de deuil, on s'oppose au temps de Dieu. On est fâché que Dieu ait enlevé un de nos proches dans un court laps de temps à nos yeux. On est fâché que le Seigneur ait retranché, comme si Dieu avait retranché, des années, voire des décennies à la vie de quelqu'un. Notre temps est déjà fixé par Dieu. Et ce temps-là est parfait. Kairos, lorsque Paul utilise ce terme, il est en train de dire le temps qui m'est imparti est tout à fait parfait. Pourquoi? Parce que ce temps imparti est imparti par un Dieu parfait. Alors le jour où Dieu retire quelqu'un de notre vie et l'amène avec lui dans l'éternité, deux choses. Un, c'est une bénédiction pour cette personne. Parce qu'il n'y a aucune comparaison entre le ciel dans la présence de notre Sauveur et la vie ici-bas sur terre. Voilà pourquoi Paul disait que pour lui, il était préférable de partir et qu'il préférait être dans la présence de son Sauveur et Seigneur Jésus. Mais qu'il était tout à fait normal et appréciable de rester puisque ça servait à l'avancement de la cause de l'Évangile. Paul disait, le jour où je m'en vais, ça sera le temps parfait. Soyons très très clairs. Lorsque je m'oppose au temps de Dieu, je m'oppose à Dieu. Ne disons pas, non, c'est pas contre Dieu que j'en ai, c'est contre son temps. Son temps est parfait ou n'est pas parfait? Sa décision est-elle parfaite ou n'est-elle pas parfaite? Et très souvent, beaucoup de chrétiens ont de la misère à faire leur deuil parce que, oui, ils veulent obéir à Dieu. Oui, ils veulent se plier à la volonté de Dieu, mais ils ne veulent pas se plier à cette volonté qui implique aussi le temps. Il est important d'embrasser le calendrier de Dieu. Le deuil est normal, la séparation est normale, la douleur qui vient d'un deuil est tout à fait normale, mais à un moment donné, je dois aussi accepter la volonté de Dieu qui était de ramener son fils, sa fille, près de lui, dans sa présence pour l'éternité. Donc Paul comprenait, lorsqu'il utilise le terme kairos, que le temps de Dieu est parfait et il n'allait pas s'opposer au temps de Dieu. Un terme important aussi lorsqu'il dit que mon départ approche. Le terme départ, oui, c'est une question de mort. Ça veut dire qu'il quitte le monde des vivants pour aller dans l'éternité. Il quitte le monde des hommes mortels pour aller dans l'éternité. Mais le terme départ ici, ça a un sens aussi intéressant. Le terme départ en grec, c'est le terme analysis. Analysis, duquel on a tiré le terme français analyse. Donc Paul est en train de dire, lorsque mon temps va arriver à terme, lorsque mon départ va arriver, dans ce départ, dans ce temps où Dieu me retire du monde des vivants pour m'amener dans l'éternité, ben il va se passer un analysis. Donc on va juger, on va analyser ma vie. Et voilà pourquoi Paul peut aussi dire, l'heure de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai couru la course. Maintenant, la couronne de vie m'est octroyée. La couronne m'attend. Pourquoi? Cette couronne vient après un jugement. Alors, Paul sait que la manière dont il a mené sa vie va être amenée en jugement et que ce jugement lui sera favorable parce qu'il a adéquatement mené sa vie. Et l'important pour nous par rapport à la mort et par rapport à l'éternité, c'est de savoir bien préparer la chose. Nous préparons l'éternité de ce côté-ci de l'éternité. Nous préparons l'éternité que nous allons avoir dans la présence de Christ de par notre vie et de par comment nous menons notre vie ici-bas, sur terre, dans notre temps de vie. Donc cette vie-là va être jugée. Et de ce jugement vont découler des bénédictions sous forme de couronne et d'occupation dans le ciel. Donc, ma vie sera jugée. Paul le sait. Et voilà pourquoi il utilise le terme départ dans le sens de analysis. Analysis veut aussi dire larguer les amarres. Larguer les amarres. C'était cette pensée du voilier qui était attaché à un quai et on défaisait les nœuds, on défaisait les cordages pour permettre au voilier de quitter son port d'attache et d'aller voguer. Et c'est cette même pensée aussi que Paul est en train d'avoir, notamment lorsqu'il parle à Timothée. Non seulement il fait ses adieux à Timothée, mais de surcroît à ça, il prépare aussi Timothée pour le restant du travail où lui ne sera pas là. Dans l'ensemble des livres pastoraux, donc Timothée 1, Timothée 2, et puis le livre de Tite qu'on appelle les épîtres d'ordre pastoral que Paul va écrire, dans chacun de ces cas, Paul est en train de préparer une nouvelle génération à suivre Christ, une nouvelle génération à travailler pour Dieu. Il est important, et il y a environ peut-être une quinzaine d'années, peut-être un peu plus loin, je suis tombé sur un article qui est devenu important pour moi dans le restant de ma vie. C'était une dame épouse de pasteur qui avait fondé une église, en fait son mari avait fondé une église, l'avait appuyée bien entendu, et elle est tombée malade. Et pour des raisons qu'elle n'expliquait pas, elle savait qu'elle allait décéder de cette maladie. Et lorsque elle l'a su, elle a appelé les anciens de l'église. Elle a une phrase qui m'a marqué lorsque je lisais cet article et qui reste en mémoire avec moi. Elle a dit « Je vous ai appris à vivre pour Christ. Maintenant, je vais vous apprendre à mourir pour Christ. » Donc, elle a pris le temps dans ces moments où elle s'en allait, de préparer les choses autour d'elle et de préparer, de larguer les amarres autour d'elle pour passer tranquillement dans cette éternité auquel elle était appelée. Et Paul fait la même chose lorsqu'il parle à Timothée et lorsqu'il parle à Tite. Et encore là, ce n'est pas une question d'appeler sur nous la mort, d'appeler sur nous la conclusion de notre vie, mais il est important de préparer ce qui vient après nous. Parce que ce départ après nous, et on va y revenir dans quelques instants, va être subite. Donc Paul est en train de dire « Je prépare Timothée » pour ce qui vient par la suite. Nous, en tant que parents, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant qu'amis, nous devons préparer ce qui vient après nous. Et surtout, lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, il est important de préparer la suite. Et voilà ce que Paul était en train de faire lorsqu'il écrivait chacune de ses lettres, lorsqu'il écrivait à Philippe, à l'église de Philippe, bien sûr, lorsqu'il écrivait à ses bien-aimés type Timothée ou Tite, il était en train de préparer la relève. Dernier point. Il dit « L'heure, le moment de mon départ approche. » Le terme « approcher » en grec « epistemie », « E-P-H-I-S-T-E-M-I ». Je répète, « E-P-H-I-S-T-E-M-I », qui veut dire « ce qui arrive brusquement ». C'est brusque dans le sens où ça se passe dans un instant. Mais cet instant peut être préparé et se doit d'être préparé. Paul est en train de dire, le jour où je vais partir, ce sera brusque. Ça va arriver rapidement. Ça va être en un instant, je ne serai plus là. Mais je vois venir cet instant et je m'y prépare. Il sait que ça va arriver brusquement. Le passage dans l'éternité, c'est un claquement de doigts. C'est un clin d'œil et on est rendu de l'autre côté. Et il est maintenant trop tard pour faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi Paul se prépare et Paul prépare son entourage. La question pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est comment je prépare mon passage vers l'éternité. La Bible nous dit, et c'est dans l'Ancien Testament que cette grande sagesse vient, il nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Chacun d'entre nous aura à faire face à Dieu éventuellement. Que l'on soit chrétien ou non, nous aurons à faire face à Dieu. L'important pour toi et pour moi, c'est de m'y préparer. De me préparer à cette rencontre avec le Christ, avec le Sauveur et le Seigneur qui a été donné par Dieu. Cette rencontre peut être merveilleuse, comme cette rencontre peut être le point initial d'une éternité chassée de la présence de Dieu. Alors pour toi qui m'écoutes ce matin, il est important que tu saches, tu vas rencontrer Dieu. Est-ce que ça va être aujourd'hui? Si tu es en règle avec Dieu, je te le souhaite, mais si tu n'es pas en règle avec Dieu, j'espère que tu auras le temps de préparer les choses. Et comment on prépare les choses? À la base, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Et que le seul sauveur qui nous a été donné et qui a été donné pour l'ensemble de l'humanité s'appelle Jésus-Christ. Dieu qui s'est fait homme, qui s'est abaissé à la stature d'un homme et qui a marché sur cette terre et qui est mort sur cette terre, mis à mort pour ton péché et mon péché. La Bible nous dit que si nous confessons que Jésus est Seigneur et Sauveur, nous serons sauvés. C'est ta décision, c'est ma décision. Mais cette décision va avoir un impact sur le restant de ton éternité, sur le restant du temps qui te passe, que tu as à passer ici-bas sur terre, mais aussi pour l'éternité qu'il y a devant toi. Alors je prie que tu puisses venir à la rencontre de ton Dieu en ayant fait la paix avec lui, en l'ayant reconnu comme Seigneur et Sauveur et en lui ayant confié ton existence et en menant le restant des jours et du temps qui t'est accordé et octroyé ici-bas sur terre d'une manière qui profite à l'avancement de son royaume et qui te prépare une éternité dans la présence de Dieu. Une éternité où cette première rencontre avec le Seigneur, la phrase que tu veux entendre, c'est « Bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton Maître. » Je m'y prépare à tous les jours. Je me prépare à l'éternité quotidiennement. Je sais qu'aujourd'hui pourrait être ma dernière journée. Mais par la grâce de Dieu, je pense, à l'instar de Paul, qu'il me reste encore du temps. Mais si c'était aujourd'hui, je suis en règle avec mon Seigneur. Si je suis pour partir aujourd'hui, j'ai préparé ce que je devais préparer et je peux aller en paix dans la présence de mon Dieu pour l'éternité. Est-ce qu'il en est de même pour toi? Je t'invite à préparer le moment de ton départ parce que celui-ci, depuis ta naissance, ne fait qu'approcher. Paul va dire qu'il sait reconnaître que le temps s'amenuise. Paul va accepter que le temps s'amenuise. Il ne le subit pas. Il profite de chaque journée. Paul sait que le temps qui a été fixé par Dieu est parfait. Il n'est pas trop court, pas trop long. Il est parfait. Paul sait que sa vie va être jugée, comme la tienne et comme la mienne. Nous serons appelés en jugement pour tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, toutes les décisions qu'on a prises ou que nous n'avons pas prises. Et enfin, Paul sait qu'à un moment donné, il doit larguer les amarres et laisser ce monde des mortels d'ici-bas et partir dans l'éternité avec Christ. Et il s'y prépare. Ça va arriver brusquement, soudainement, mais il s'y prépare malgré tout. Alors la question pour toi et pour moi, c'est est-ce qu'on s'y prépare aussi? Mais laissez-moi quand même répéter ce que j'ai cru être dire clairement tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on prépare notre mort que nous raccourcissons le temps qui nous est imparti. Nous ne sommes pas superstitieux, nous croyons en Christ et notre vie lui appartient, notre mort lui appartient aussi. Alors c'était ce que nous avions pour ce matin, on va prier pour terminer et après ça, on salue quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis le début de notre intervention. Alors merci Seigneur d'avoir mis ce passage afin que nous soyons confrontés avec cette chose assurée qu'on appelle la mort, ce passage dans l'éternité qu'on appelle la mort. Seigneur, chacun d'entre nous aura à y passer, à moins que tu ne viennes chercher ton Église d'ici là. Chacun d'entre nous, Seigneur, seront aussi appelés en jugement. Et le jugement, Seigneur, sera sur la vie que nous aurons menée ici-bas et qui dictera le restant de notre éternité. Nous ne pouvons, Seigneur, que décider pour nous-mêmes. Nous ne pouvons même pas décider pour ceux qu'on aime, qui nous sont proches. On ne peut pas décider pour son enfant. On ne peut pas décider pour l'être aimé qui est à côté de nous. On ne peut décider que pour nous-mêmes. Et l'éternité sera marquée par les décisions qu'on prend à ton égard. Alors je prie, Seigneur, pour moi-même, mais je prie, Seigneur, que tu parles aussi au cœur de mon ami, de ma sœur, de mon frère, afin que nous tous, Seigneur, nous puissions nous préparer. Parce que ce jour arrive, ce jour approche, où nous aurons à larguer les amarres et où nous passerons devant l'analyse de ton regard sur nos vies. Je prie, Seigneur, que nous n'ayons pas à rougir, mais que nous ayons été des serviteurs fidèles à ton appel, bien conscients du temps qui raccourcit, et ayant profité de chaque occasion, favorable ou non, pour faire avancer ton œuvre. Alors arrose cette parole par ton onction ce matin, et permets, Seigneur, qu'elle s'enracine et qu'elle transforme nos vies. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors permettez-moi de saluer quelques personnes ce matin qui nous ont qui se sont jointes à nous depuis nos dernières salutations. Je remonte un peu. Donc, qui donc? Melida Gamboa, Dieu vous bénisse. Rosie de l'Alsace, bonjour. La sœur Nina, le frère Rigoberto, qui sont au Chili, encore actuellement, Dieu vous bénisse. Linda, bonjour. Manuel Geldes Pinto, que Dieu vous bénisse. Maggie Donoso, j'étais content de vous voir dimanche, Maggie, Dieu vous bénisse. Farley Marie-André, Dieu vous bénisse. Lynn, content de te savoir avec nous. Content de te voir avec nous, sois béni. Je pense que c'est tout pour ce matin. Oui, alors je vous rappelle que les inscriptions ont cours. Pour l'assemblée de dimanche. Si vous avez envie de venir directement à l'église, il faut vous inscrire. Donc, pour ce faire, c'est soit le numéro de téléphone de l'église. Si vous regardez dans la page Facebook, vous aurez les coordonnées, bien entendu, de l'église. Ou sinon, au secrétariat de l'église par courriel. Et là encore, vous avez tout ça dans les informations, soit sur la page web de l'église, ou sur la page Facebook de l'Église. Donc, ça prend simplement d'avoir 30 ans et plus, et puis de ne présenter aucun signe grippal, bien entendu, les normes habituelles. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. J'étais content de vous avoir ce matin, et puis que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. D'ici là, passez une très belle journée dans la présence de Dieu et préparez votre éternité dès aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.